Donc, Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Il y avait une personne qui savait de quelle manière la naissance de Christ arrivait, c'était bien Marie. Mais qu'elle repassait cela dans son cœur. Et ce serait un bon sujet pour un message pour une autre fois. Mais on voit dans les versets 13 et 14, hein, ils nous disent « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Dans les versets juste avant, il y avait juste un seul ange qui se présente au berger, ou plutôt qui se révèle au berger. Et cette apparition, comme souvent, ils ont la même réaction que nous on aurait. Hein, ils ont eu peur. Et surtout qu'en connaissant la tradition et les coutumes juives, ils savent que généralement, l'apparition d'un ange, généralement, ce n'est pas bon signe. Mais c'est pour ça que les premières paroles de cet ange, c'est de les rassurer. Je comprends que vous ayez peur, vous n'avez pas tort d'avoir peur, sauf que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, donc vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Et il veut les rassurer tout de suite. Il dit, ne craignez rien. Je viens vous annoncer, il dit, une bonne nouvelle. Tout le monde aime recevoir les bonnes nouvelles. Et verset 13, il dit, « Soudain, il se joignit à l'ange une multitude. » Ce mot « soudain » veut dire exactement cela. C'est soudainement, tout d'un coup. C'est, à un moment donné, il n'y a qu'un seul ange, tu clignes des yeux, puis il y a toute une foule, une multitude d'anges, tu ne peux même pas les compter. Ces pauvres bergers, ils avaient déjà peur à la vue d'un seul ange. Imaginez-vous si cette multitude s'était présentée avant que cette première ange leur dise « Ne craignez rien !» Les pauvres, tous crise cardiaque. Mais ce mot « soudain » pour moi montre que cette multitude était déjà présente. C'est juste que, comme on le voit souvent à travers les Écritures, Dieu a pu leur ouvrir l'esprit et les yeux pour révéler ce qui se trouvait déjà là. Et pour que cette multitude d'anges leur soit maintenant visible. Et l'homme, vous savez, a toujours été fasciné par les anges, n'est-ce pas? Même aujourd'hui. La Bible nous montre clairement qu'on ne doit jamais louer ou adorer les anges ou un ange, mais on doit toujours écouter et ne pas mettre en question ce qu'un ange nous dit. Parce que contrairement à nous, un ange ne peut pas mentir. Un ange ne peut pas faire semblant non plus. Alors, quand la Bible me dit que les anges, cette multitude d'anges est venue pour louer Dieu, en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, sur la terre et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent », je ne peux pas accepter de croire qu'ils étaient tous là en train de réciter une phrase qu'ils ont appris par cœur. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est bon, on a fait notre travail, on peut y aller. Non, je refuse de croire que les anges se présentent de telle manière aux bergers, n'est-ce pas? Je ne peux pas accepter. Je les vois en train de parler avec sincérité, je les vois en train de parler avec force, je les vois en train de parler avec une joie réelle, alors que cette joie ne leur concerne pas. Christ n'est pas venu naître pour le bien des anges. Christ n'est pas venu naître pour le bien de Dieu non plus. Christ est venu naître pour le bien de l'homme. Mais ça n'enlève en rien la joie réelle de ces anges de pouvoir réaliser. Dieu veut que nous soyons les personnes qui déclarent, qui témoignent, qui disent à ses bergers, « Christ est né pour vous !» Et on les voit en train de louer le Seigneur pour leur part qu'ils ont dans sa naissance. Comment ne pas croire que cette joie ne soit pas exprimée pour ce que moi je considère ce premier chant de Noël? La Bible nous parle des anges qui jouent de la trompette, qui jouent des instruments à cordes, etc. La Bible nous parle des anges qui sont au service de Dieu, qui louent constamment Dieu, le Dieu de gloire. Et on les voit maintenant remplis de fierté, non à cause de qui ils sont, mais à cause de la tâche qui leur sont donnée. La joie de servir un Dieu si merveilleux, si grand, des anges remplis de sincérité et de joie. Alors oui, quand je lis ce passage en Luc, je me dis que ce premier ange avait partagé son message au berger, et que s'il était le seul à le faire, ben on pourrait dire, oui, il a juste annoncé, il a parlé. Mais le fait d'avoir une multitude d'anges se joindre à lui, pour moi, pour partager ce message, je vois une chorale céleste. Tous ces anges ensemble, remplis de joie, de pouvoir dire à l'humanité à travers leur chant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes. Il nous serait bon pour nous de regarder à ce message et ne pas juste dire « Ah oui, c'est vrai, c'est beau. Ah, c'est bien. » Et ensuite passer à autre chose. Mais de voir et de laisser Dieu nous enseigner l'importance de la naissance de Christ. Et pourquoi nous aussi, on devrait être comme les anges, remplis de joie à la pensée que c'est bah, que Dieu s'est fait homme pour mon bénéfice à moi. Que j'avais besoin que Dieu passe par cette étape pour mon bien à moi. Alors, regardons rapidement le message en lui-même. Parce que le message en lui-même, il est très court, parce qu'il a voulu être simple et facile à comprendre et être clair. Contrairement à nous, beaucoup de politiciens, tu leur demandes une question très claire, qui devrait avoir une réponse très claire, et tu as une réponse de 30 minutes et tu ne sais toujours pas quelle est la réponse. Mais non, il a voulu, le message est clair, précis. On ne peut pas ne pas la comprendre, mais ça reste quand même un message d'espoir, de force et de joie. Les anges commencent en disant « Gloire à Dieu !» À notre époque, plus que jamais, nous avons besoin de nous rappeler que si ce n'est à n'importe quel autre moment de l'année, lors de Noël, c'est un moment où on doit se rappeler que toute la gloire doit revenir à Dieu. On se rappelle de sa naissance, on dit merci, mais de quelle façon est-ce que nous sommes en train de réellement rendre gloire à Dieu pendant cette période de Noël, pour qui il est, pour ce qu'il a fait. C'est la toute première chose que les anges déclarent, et le fait que la naissance de Christ elle-même, la naissance de Christ elle-même donne gloire à Dieu. Parce qu'on réalise tout ce que cela implique. Pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce qu'il a bien voulu sacrifier pour se faire homme comme nous? Nous savons qu'il doit naître dans le but principal de pouvoir mourir à notre place sur la croix. C'est nous qui, comme on l'a dit, tout a gagné de la naissance de Christ. Mais la toute première réaction qu'on devrait avoir, c'est la même pensée que celle des anges. Rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu de ce que tu as envoyé Jésus-Christ. Gloire à Dieu de ce que Christ a accepté de venir. Les anges ont vu tellement de choses, vous savez, à travers les années, à travers les milliers d'années. La Bible dit que les anges étaient présents lors de la création du monde. Imaginez leur regard curieux et stupéfait maintenant lors de la création, de voir Dieu pendant 6 jours, déjà le fait que des journées n'existaient pas avant, de la création, de voir Dieu, un jour après l'autre, créer l'univers, tout ce qu'elle contient, la terre et tout ce qu'elle renferme. En Job, chapitre 38, versets 4 à 7, nous dit, « Où étais-tu quand Dieu répond enfin à Job, à ses questions ?»« Où étais-tu quand je fondais la terre ? » ?»« Dis-le si tu as de l'intelligence. » »« Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? » ?»« Et qui a étendu sur elle le cordeau ? » ?»« Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ?» Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les anges étaient là, ils voyaient avec étonnement, ébahissement. On sait que Dieu nous a créés, nous, mais on n'a jamais vu créer quelque chose comme cela avant. Combien de fois, depuis la création, les anges ont vu Dieu intervenir pour le bien de l'homme, venir et se révéler de différentes façons à l'homme. Combien de fois est-ce que les anges ont été utilisés par Dieu pour le bien de l'homme même? Mais cette fois-ci, c'est différent. Dieu ne vient pas sur la terre comme il l'a fait dans le passé. Il ne vient pas juste pour un tout petit moment et puis repartir, se révélant dans un buisson ardent ou se présentant sous cette colonne de fumée ou de feu pour diriger le peuple d'Israël à travers le désert. Non, cette fois-ci, Dieu vient sur la terre pour y rester, pour y vivre comme un homme. Oh, c'est étrange. Les anges n'ont jamais rien vu de tel, ni l'homme. Et en sachant qu'il est venu pour mourir comme un homme et pour ressusciter comme un Dieu. Vaincre la mort pour prouver qu'il n'est pas juste un homme, mais qu'il est Dieu fait homme. Alors cette fois-ci, les anges apportent leur louange et leur adoration, mais ils élèvent leur adoration au plus haut degré. Ça fait depuis des milliers d'années qu'ils sont déjà en train d'adorer Dieu. Mais cette fois-ci, ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant, qu'ils savent qu'ils ne verront plus jamais. Dieu naître sous la forme de ce petit bébé. Alors ils disent gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ils ont donné la plus grande louange pour le plus grand acte que Dieu a fait pour l'humanité. Nous devrions nous aussi pouvoir regarder à la création de Dieu et être ébahis de ce que nous voyons. Je ne comprends pas comment un docteur qui a fait toutes ses études et cette pratique en tant que docteur puisse rester athée. Je ne le comprends pas, humainement, intellectuellement. En moi-même, ça devrait être incompréhensible. La Bible nous dit que les étoiles ainsi que la création elle-même que nous voyons de nos yeux témoignent, pas juste de sa présence, mais la Bible nous dit qu'elle nous témoigne de sa gloire. Qu'en voyant cela, notre réaction devrait être gloire à Dieu. Rien ni personne n'est au-dessus de toi. Rien ni personne n'est plus fort, n'est plus puissant, n'est meilleur que toi. Mais de pouvoir comprendre la naissance du Christ, que ce Dieu se fait homme, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, ce Dieu majesté, etc. On pourrait continuer tous les attributs qui définissent Dieu. Le voilà qui choisit de se restreindre dans le corps d'un petit bébé. Je suis ébahi, je ne peux que t'adorer et te rendre gloire pour cet acte si merveilleux, Seigneur. Rien n'est plus grand que cela, rien n'est plus étonnant que cela, rien n'est plus surprenant que cela. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Est-ce que vous arrivez vraiment à comprendre et visualiser ce qu'implique la naissance de Christ? Toute la sagesse de Dieu à travers cette naissance. Dieu se fait homme pour que l'homme puisse être rendu juste devant Dieu, coupable que nous sommes. Toute la puissance de Dieu à travers la naissance de Christ. Ce Dieu tout-puissant arrivant à se restreindre de la sorte, même dans notre domaine physique et humaine. Plus puissant est quelque chose, plus il est difficile de trouver un moyen de le contenir. De trouver maintenant ce Dieu qui n'a aucune limite dans sa puissance, à trouver un moyen, lui, à se contenir dans ce corps d'un bébé si fragile. Quel étonnement! Gloire à Dieu! Toi seul ne peux faire une chose pareille. Tout l'amour qui est démontré à travers la naissance de Christ. Ce n'est certainement pas parce que nous méritons un tel sacrifice que Dieu nous dit, comme en 1 Jean chapitre 4, alors même que nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Ou l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il ne l'a pas envoyé pour régner sur la terre, pas encore, ce jour viendra. Mais avant de régner, il veut pouvoir faire de nous ses enfants, nous sauver, pour que nous puissions être avec lui et non contre lui quand il reviendra. Imaginez toute la fidélité de Dieu à travers la naissance. Pensez à toutes les prophéties, Pasteur Dolaire en a parlé récemment. Toutes les prophéties accomplies, rien que dans la naissance même de Christ. Après, il y a toute une panoplie de prophéties accomplies dans sa mort et sa résurrection. Mais rien que dans la naissance, des choses qui ont été prophétisées des milliers d'années avant. Dieu a promis, Dieu est fidèle. Nous savons que Christ n'est pas né juste pour le plaisir de vivre parmi sa création. L'action même de naître comme un bébé est le signe, l'événement qui a changé absolument tout pour l'homme. Et avec cette naissance commence le processus nécessaire pour le salut de l'homme. Sans cette naissance, nous restons condamnés. Sans cette naissance, Dieu ne peut pas verser son sang pour le salut de nos péchés. Nous sommes voués à rester coupables pour l'éternité. Je suis persuadé que les anges ont chanté non seulement parce que Christ est né, mais parce qu'ils comprenaient que le salut pour l'homme est mis en place. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. D'ailleurs, ça rejoint la deuxième chose que ce message voulait partager. Paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Nous ne voyons pas les anges chanter quand Christ se trouvait dans le jardin de Gethsémané, vous savez. Ce n'était pas un moment de réjouissance. On ne les voit pas chanter et célébrer quand Judas vient le trahir. Il n'y avait pas de joie et de célébration. Ce n'était pas un moment de paix. D'ailleurs, depuis que Dieu envoya son ange se tenir devant la porte du jardin d'Éden, quand il a chassé Adam et Ève, il n'y a jamais eu de paix sur la terre ou parmi les hommes. Depuis ce jour où Adam et Ève ont désobéi, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des conflits entre nations, des conflits au sein même de la même nation. Un roi qui succède l'autre, un meilleur ou pire que l'autre, mais toujours entouré de tant de guerres et de conflits. Mais maintenant, on a les anges qui nous disent paix sur la terre. Ah, pas pour tout de suite, pas au moment même de la naissance que cette paix va arriver, mais grâce à cette naissance, paix est maintenant possible sur la terre et parmi les hommes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Non parce que l'homme a changé, l'homme est toujours aussi mauvais, incapable de se rendre juste devant Dieu, incapable de vivre en paix les uns avec les autres. Ça, on l'a prouvé depuis toujours, n'est-ce pas? Mais Christ est né. Cette crèche représente, si vous voulez, l'endroit où l'armistice a été signé. Ils disent, la paix est possible, venez la signer aussi. Acceptez le cadeau que je vous offre, acceptez le salut que je vous donne, et la paix vous est offerte pour l'éternité. La naissance de Christ marque le début de la fin de la guerre entre Dieu et la nature pécheresse de l'homme. Avec la naissance de Christ, l'homme a enfin l'espoir de pouvoir vivre en paix avec Dieu une fois de plus. L'homme peut faire tous les efforts qu'il veut, mais s'il veut avoir la vraie paix, il ne pourra jamais la trouver ailleurs qu'en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1er nous disent, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas l'avoir sans notre Seigneur Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 2, verset 13 et suivant, nous disent, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui en a renversé le mur de séparation de l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Oui, les anges, on dit gloire à Dieu, paix sur la terre. Christ est venu, Christ est né, et maintenant, enfin, l'homme peut être réconcilié avec Dieu et être en paix au lieu de vivre contre Dieu. Ce qui m'amène au prochain point qui, je vous rassure, est beaucoup plus court. Mais parce qu'elle devrait être tellement évidente. La joie qu'apporte ce message. Nous n'aurions pas vraiment de raison de célébrer Noël si la raison de pourquoi Dieu s'est fait homme était pour venir punir le monde. Si les anges avaient dit, gloire à Dieu, Christ est né, le monde, vous allez périr. Il est venu condamné. On n'aurait pas de raison de nous réjouir de la naissance de Christ et de célébrer Noël, n'est-ce pas? Mais sa naissance nous apporte de la joie parce que sa naissance nous apporte le salut, la paix et la réconciliation que nous avons besoin avec Dieu. Les anges ont chanté un chant qui ne les concerne pas. Ils ont toujours, eux, accès à la présence de Dieu. Mais on les voit chanter avec joie et avec force. La naissance de Christ est pour notre bien à nous. Christ doit faire un sacrifice immense pour vivre comme un homme et ensuite mourir en prenant ce qui lui est le plus détestable de tout, le péché, nos péchés sur lui. Mais il le fait volontiers parce qu'il nous aime à ce point-là. Il est normal que la naissance de Christ nous apporte de la joie, tout comme il devrait être normal que la naissance de Christ nous pousse à glorifier Dieu de tout notre cœur. Je vois les anges chanter et apporter gloire à Dieu. Pour moi, avec une entière confiance, on ne voit pas le moindre doute ou hésitation dans leur message, n'est-ce pas? On ne les voit pas hésiter, glorifier Dieu avec un esprit de dire, ben, j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Hein. Il n'a jamais fait ça auparavant. Non, ils savent qui Dieu est. Et ils partagent leur message avec force, avec confiance, parce qu'ils savent qui est Dieu. Ils savent que Dieu sait ce qu'il fait. On voit une force dans la confiance dans leur message. La naissance de Christ devrait nous apporter cette même confiance, cette même force, pour que nous aussi nous puissions rendre gloire à Dieu avec sincérité. Pas juste quand on reçoit plein de cadeaux autour du jour de Noël. Pas juste quand ils répondent aux prières comme nous, on le souhaite et on le désire. Mais juste à cause de qui il est. Juste le fait de nous rappeler. Dieu, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ. Christ, tu as accepté de venir, de vivre parmi nous pour mourir pour mes péchés. Peu importe ce par quoi je suis en train de passer, je peux te rendre gloire. Je peux te remercier. Je peux retrouver ce que la Bible nous parle du joie de notre salut. Que les épreuves ne nous font pas perdre cela. Ça ne veut pas dire que les épreuves ne nous font pas mal, etc. Non, mais pas au point de perdre la joie de mon salut. Si nous pouvons faire ça, la joie, la paix, la confiance que donne la naissance de Christ ne sera pas célébrée à travers notre vie juste un jour dans l'année, ni même juste pendant un mois dans l'année. Mais notre joie de la naissance de Christ se verrait tout au long de l'année, dans tout ce que nous faisons. Malgré les difficultés et les peines, malgré les victoires ou les défaites, nous aurions l'habitude, hein, de ne pas mettre l'accent sur nous. Mais la paix de Dieu et sa joie nous poussera à continuer à glorifier Dieu, peu importe ce par quoi on passe. Nous devrions vivre de manière à démontrer le résultat de la naissance de Christ. Les anges ont proclamé gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes. Alors, ma question pour moi et pour vous, c'est que proclame votre vie? Efforçons-nous vraiment de vivre en paix entre nous? Pour la gloire de Dieu. Même si ça veut dire que je dois pardonner un tort qui m'a fait beaucoup de mal, ou si je dois avoir une très grande dose d'humilité pour demander pardon pour un tort que j'ai commis envers quelqu'un d'autre, mon but c'est paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Je veux faire ma part, je veux être obéissant, je veux rendre gloire à Dieu en gardant la paix entre nous. Je dois m'efforcer de vivre tout au long de l'année en démontrant la joie qu'apporte le salut. Je dois prier à Dieu chaque soir, pardon, et chaque matin, et tout au long de la journée, et dire merci Seigneur pour ce merveilleux cadeau. Merci pour la naissance de Christ. Oui, la naissance est arrivée à un moment donné précis dans l'histoire, mais ses effets continuent jusque dans l'éternité. Merci pour Christ. Merci pour ton salut. Merci pour ton pardon. Je ne mérite aucune. Merci, aide-moi à vivre de façon à te montrer ma reconnaissance. Je dois m'efforcer à vivre chaque jour avec la joie de mon salut. Et quand vient Noël, ben que Dieu ne soit pas surpris de nous voir. Ah, tiens, t'es nouveau dans ma maison? Ah, ça doit être Noël. Ou dire, mais qu'il ait l'habitude de nous voir aller en sa présence tous les jours, chaque jour, pendant l'année. Alors, pour faire simple, mon désir, c'est que chacun d'entre nous puissions vraiment apprendre à célébrer Noël de la même manière que l'ont fait les anges ce soir-là. Les anges ce soir-là n'ont rien fait de plus qu'ils ne faisaient déjà depuis leur création. C'est juste que là, ils ont eu l'occasion de le faire devant des bergers. La différence ce soir-là était que les bergers ont eu l'occasion de se faire voir et de se faire entendre. Il est normal pour nous de parler plus de la naissance de Christ pendant les fêtes de Noël, c'est tout à fait normal. Tout comme il est normal de parler un peu plus de la mort de Christ pendant les fêtes de Pâques. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas parler de sa naissance ou de sa mort ou du salut qu'il nous donne tout le reste de l'année. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas montrer à travers notre vie ce que ces vérités font en nous et pour nous. De quelle manière ça impacte et change notre façon de voir, notre façon de penser, les décisions que nous prenons, la joie et les peines que nous supportons. Ça n'a rien à voir avec de faire tout un show de notre croyance, mais c'est de montrer à Dieu premièrement combien sa naissance nous fait réjouir, Combien sa mort, qu'on est reconnaissant, nous rend reconnaissant pour son salut. Combien sa résurrection nous remplit de paix et de confiance. La naissance de Christ est un événement historique qui s'est réalisé une fois pour toutes. Sa mort est un événement historique qui s'est réalisé une fois pour toutes. La résurrection de Christ est un événement historique qui également s'est réalisé une fois pour toutes, mais qui a donné accès au ciel à travers le salut de Christ et qui change notre vie une fois pour toutes. Ce salut, pour l'instant, elle est enrobée dans ce petit bébé dans une crèche. Et si nous avions la capacité de recevoir le salut par nos œuvres, alors la naissance de Christ ne sert absolument à rien. Elle est futile et elle est complètement illogique. Dieu aurait pu nous donner la Bible en nous expliquant quels sont ce qu'on doit faire et ne doit pas faire pour être sauvé, ça suffirait. Il nous a donné la Bible et nous a dit, je vous ai envoyé mon Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix à votre place, pour que vous puissiez être sauvés. Sinon, ça n'a aucun sens qu'il se limite et qu'il passe par toutes ces souffrances et pour vivre parmi nous si on pouvait acquérir le salut par nos propres œuvres. Mais Christ devait naître parce que seul le sang de Christ a le pouvoir de nous laver, nous sauver de nos péchés. Je vous termine avec ces quelques passages en Colossiens chapitre 1er, on termine par un mot de prière. Et bien, en Colossiens chapitre 1er verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui, en parlant de Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Impossible sans cela. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Sans faute, si vous préférez, sans tâche, sans péché. Noël est un moment de joie et le commencement de la paix. Si seulement nous voulons bien accepter le salut que Dieu nous offre à travers le sacrifice de Christ sur la croix. Sinon, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent est une chose impossible. L'homme l'a prouvé tant et tant de fois, bien trop souvent. Prions, louons le Seigneur et suite à cela, il y aura quelques annonces pour la collation qui suit. Seigneur,